Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique.
À 7h41, le Grand Matin Sud Radio a invité pour vous, pour ce petit déjeuner politique, Guillaume Bernard, historien du droit et politologue. Bonjour.
Guillaume Bernard, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio et meilleurs voeux, on est en pleine période. Vous êtes l'auteur du livre notamment « La guerre à droite aura bien lieu », le mouvement d'extrogir publié chez Desley Brouwer. Vous êtes politologue et on va décrypter avec vous les points marquants de l'année 2018 et voir les perspectives politiques en France en 2019, année qui s'annonce aussi indécise que décisive. L'année politique s'est terminée avec les vœux du président de la République, c'est une vieille tradition. Qu'avez-vous pensé de ces vœux ?
D'abord que Emmanuel Macron est un grand professionnel, incontestablement, je dirais la forme était très bien travaillée. Le contenu du discours, là aussi, était assez impressionnant. Il a utilisé tout un ensemble de mots, tout un ensemble de termes pour essayer de toucher les différents segments de l'électorat. Par ailleurs, il est quand même incontestable que, tout en étant professionnel, il ne trouve pas, je dirais, l'empathie avec toute une partie de l'opinion publique française. L'utilisation de l'expression « foule haineuse », c'est ce qui a été dit régulièrement sur tous les réseaux sociaux, me paraît extrêmement délicate. En fait, cette expression est extrêmement délicate et montre qu'il cherche incontestablement à retrouver l'autorité qu'il avait perdue. On avait dit au début du quinquennat.
Ça a changé il y a quelques années.
Ça a changé, je sais. Qu'il avait réussi à la suite, je dirais, de Nicolas Sarkozy, Bling Bling, et Speedy Gonzalez qui n'arrête pas de bouger, à la suite de François Hollande, un peu mou, un peu, je dirais, président normal, qu'il avait réussi à restaurer, je dirais, l'autorité du chef de l'État. L'année 2018 avait plutôt été marquée par le fait que, il avait perdu de sa stature, incontestablement, notamment avec l'affaire Benalla, avec plein d'autres choses. Et là, il a essayé, je dirais, de se réinstaller dans la position du chef politique. Mais le problème, c'est qu'un chef politique, il faut qu'il ait un certain charisme et pas simplement, je dirais, qu'il ne cherche pas simplement à marquer son autorité, à marquer, une rudesse. Or là, il est plus dans le discours rude, je dirais, dans l'incompréhension d'une partie du tissu social que dans, je dirais, le fait d'être un père, un chef de famille. Je crois que c'est Emmanuel Todd qui l'a dit, je suis assez d'accord avec lui, il n'apparaît plus, je dirais, comme étant le père, le chef de la nation, il apparaît plutôt comme étant un jeune homme, et donc forcément, la place du chef de l'État, ne lui va plus vraiment.
Mais n'aurait-il pas manqué une annonce forte lors de ses vœux ? Par exemple, un référendum, sur le référendum d'initiative citoyenne.
Le problème, c'est que la coutume veut que les vœux, ce n'est pas fait pour faire un programme politique, pour annoncer des mesures. Et c'est vrai qu'il a simplement annoncé le fait qu'il allait écrire aux Français pour leur expliquer comment allait fonctionner le débat national. Le problème, c'est que, et c'est dans toute cette affaire des Gilets jaunes la même affaire, il répond toujours avec un temps de retard. Quand les Gilets jaunes parlent, je dirais, de la question fiscale, il ne répond pas. Quand ensuite, ils sont passés, ces Gilets jaunes, à, je dirais, une contestation du personnel politique, Macron démission, il répond à ce moment-là sur la question, je dirais, de la taxe carbone. Et puis, quand les Gilets jaunes en sont arrivés à la question du référendum d'initiative populaire, il répond par un débat qui va donner lieu à un rapport dont on ne sait pas ce que ce rapport donnera. Il est à contre-temps.
Pour vous, quel a été l'événement politique capital en 2018 ?
Je crois que c'est difficile de dire autre chose que les Gilets jaunes. Je crois que cette émergence politique de quelque chose qui est né sur les réseaux sociaux, qui est né de la base, qui est né en dehors des syndicats et des partis politiques, que personne n'a vu venir, en tout cas sous cette forme-là. Le fait qu'il y ait une crise de la légitimité politique, ça on le sentait depuis un certain temps, ne serait-ce que parce que justement Emmanuel Macron avait été élu, je dirais peut-être plus par défaut que par adhésion. Mais en revanche, le fait que ça puisse prendre cette forme, et surtout que ça ne soit pas canalisé par les forces institutionnelles, les partis politiques et les syndicats, ça c'est quand même extrêmement significatif.
Alors justement, comment sortir de cette crise des Gilets jaunes qui dure maintenant depuis un mois et demi ?
Écoutez, je n'ai pas de boule de cristal, simplement je pense qu'évidemment, on est là en face de quelque chose qui n'est plus simplement une crise, je dirais, sociale, qui n'est plus simplement une crise politique, mais qui est les prémices d'une crise de régime. L'enjeu, évidemment, il est de savoir est-ce qu'on laisse partir à la dérive tout un ensemble de Français qui ne se reconnaissent plus dans le personnel politique, bien sûr, mais aussi dans les institutions politiques. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement, je dirais, important et significatif. Comment en sortir ? Sincèrement, à part la révision de la Constitution et l'introduction du référendum d'initiative populaire, ou que d'autres appellent référendum d'initiative citoyenne, mais enfin, ça revient à peu près au même.
C'est comme disait Jacques Duclos il y a quelques années, il y a 50 ans, c'est bonnet blanc ou blanc bonnet. Il y a pile 50 ans, puis en 69.
Exactement. Bon, ça revient à peu près à la même chose. Simplement, référendum d'initiative citoyenne, c'est peut-être plus l'expression utilisée par, je dirais, des gens marqués à gauche, initiative populaire, plutôt par des gens marqués à droite. Mais enfin, bon, ça n'a pas grande importance. Je crois sincèrement que c'est la soupape de sécurité qui permettrait à ceux qui se considèrent comme étant humiliés, exclus, le fait qu'ils puissent s'auto-saisir d'une question et que les Français la tranchent, c'est ce qui serait la soupape de sécurité. Sinon, très honnêtement, le reste me paraît très compliqué, parce que je suppose que vous voulez qu'on évoque notamment les européennes, etc.
Mais on va en parler.
Mais il n'empêche que le cœur de la question pour les européennes, c'est pas simplement le résultat des différents partis politiques, c'est le taux de participation. Et donc, on pourra dire qu'on sera sorti de la crise des Gilets jaunes si, au moment des européennes, il y a un taux de participation en augmentation par rapport aux élections de 2014. Parce qu'il faut, évidemment, il faut comparer élection par élection. Les résultats en eux-mêmes, bien sûr, c'est significatif, mais il y a aussi le fait de s'investir dans le débat politique avec les partis politiques traditionnels. Or, encore une fois, les Gilets jaunes, c'est né en dehors des syndicats et en dehors des partis politiques. Et donc, par conséquent, sincèrement, dans l'état actuel des choses, le référendum permettant aux Français de s'auto-saisir d'une question et de la trancher me semble être la soupape de sécurité qui permettrait que, de cette crise politique, on ne bascule pas véritablement dans une crise de régime.
Guillaume Bernard, est-ce que finalement, ce début 2019, on est le 2 janvier, le paysage politique français n'est pas un champ de ruines, à droite comme à gauche, et même en même temps à droite et à gauche, quand on voit la situation de LREM ?
Ah oui, bien sûr. Si vous voulez, ce qui, moi, me paraît extrêmement, alors je vais dire inquiétant, mais ça n'est pas... moi, en même temps, je suis là pour observer et analyser. C'est que jusqu'au phénomène Macron, on avait la possibilité toujours d'une alternance politique. C'est-à-dire que, certes, il y avait une ouverture à gauche quand c'était la droite modérée qui était au pouvoir, ou une ouverture à droite quand c'était la gauche modérée qui était au pouvoir, mais il y avait toujours la possibilité d'une alternance. Avec LREM, avec Macron, on a créé, d'une certaine manière, la grande coalition droite modérée, gauche modérée. Autrement dit, on se retrouve dans une situation où, s'il y a un échec politique, de cette force politique-là centrale qui empiète sur les deux côtés, sur les deux camps du spectre politique, qu'est-ce qui reste comme solution autre que les extrêmes ? Attention, les extrêmes, moi je le dis sans aucune morgue ou sans aucun, sans aucune...
Jugement de valeur.
Exactement. Les extrêmes, c'est pas nécessairement extrémiste, c'est pas nécessairement des brutes épaisses, etc. Hein. Mais qu'est-ce qu'il reste comme autre solution, comme alternative autre que, effectivement, les extrêmes du spectre politique, à partir du moment où l'on n'a plus la possibilité d'une alternance au sein des forces modérées dites de gouvernement.
Mais justement, certains gilets jaunes demandent la démission de Macron. Oui. Imaginons qu'il démissionne, il se retrouve au second tour face à Marine Le Pen, et il est réélu.
Oui, vraisemblablement, c'est ce qui pourrait se passer. Maintenant, Macron, de nouveau au second tour, je suis peut-être moins optimiste que vous.
C'est pas optimiste, c'est les sondages qui disent qu'aux européennes, ce serait un Rassemblement National, oui. Deux, La République En Marche, et très loin derrière, on est aux alentours de 10%, La France Insoumise, Les Républicains, Debout la France, etc.
Oui.
Entre 8 et 12, quoi.
Alors, les personnalités politiques, elles ont aujourd'hui une espérance de vie extrêmement courte. Vous savez, hormis le cas de 2002 où Jacques Chirac est réélu, depuis grosso modo les années 90, on n'a jamais aucune majorité qui est véritablement reconduite une fois qu'elle a exercé le pouvoir. On a un zapping politique.
2007. 2007, oui, c'est la droite au pouvoir, 2002 à 2007, et le législatif s'est confirmé.
Simplement, Nicolas Sarkozy s'était positionné dans une rupture dans la continuité, ou dans une continuité dans la rupture, comme on veut, qui faisait que, eh bien, il était apparu comme le vilain petit canard dans les gouvernements Raffarin et Villepin. Donc, il avait réussi à créer un semblant, je dirais, de rupture avec l'équipe précédente. Mais on est quand même essentiellement avec un zapping politique, avec une espérance de vie de notre personnel politique qui est, je dirais, très courte.
Alors, il y a une certitude, c'est qu'il y aura des élections cette année, c'est les européennes, oui. Les présidentielles, Emmanuel Macron est loin d'avoir démissionné, nonobstant ceux qui demandent sa démission. Comment est-ce que vous voyez ces élections? Est-ce qu'elles vont rebattre, les cartes de la politique française?
Alors... D'abord, on est à 5 mois des élections, donc les sondages qui sont faits sont intéressants, mais ne sont pas encore totalement significatifs. Ensuite, le deuxième élément très important, c'est quel sera le taux de participation. On a, depuis les élections au Parlement européen en 1979, une dégradation du taux de participation régulier. C'est-à-dire qu'on est passé grosso modo de 60% de participation à aujourd'hui environ 40%. Le grand enjeu, surtout avec la crise des Gilets jaunes, c'est de savoir est-ce qu'il y aura un taux de participation plus important qu'en 2014 ou pas. Ça, c'est le cœur du problème, parce qu'après, évidemment, il y a les résultats. Pour ce que l'on en sait aujourd'hui, le Front National, le Rassemblement National, j'y arriverai pas, hein, c'est comme UMP et LR, j'ai mis un certain temps avant de pouvoir embrayer sur les changements de dénomination.
Vous n'êtes pas seul. Hein.
Donc le Rassemblement National retrouverait aujourd'hui, il y a 6 mois encore, il était à 8-10 points en dessous de son résultat de 2014 où il avait fait 25%. Pour l'instant, il semblerait qu'il retrouve à peu près le même niveau qu'en 2014. Autrement dit, ça serait un rattrapage par rapport, je dirais, à son échec de 2017, le fameux débat de l'entre-deux-tours, mais aussi et surtout les législatives de 2017, où il avait fait moins de voix au premier tour des législatives de 2017 qu'au premier tour des législatives de 2012. Donc il était dans une spirale, je dirais, dépressive,
négative.
Et là, effectivement, il retrouverait des couleurs. Retrouver des couleurs, ça ne veut pas dire devenir une force capable de briser le fameux plafond de verre qui l'empêche d'arriver au pouvoir. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que tant que le Front National n'aura pas mis en place une stratégie permettant de recomposer la droite et donc de se passer des actuels partis politiques qui sont, je dirais, le principal obstacle à l'unité du peuple de droite, eh bien, il n'arrivera pas au pouvoir seul. Bon, donc le Front National retrouve un certain niveau. Ce qui est intéressant à droite, c'est que Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Frédéric Poisson, ce tandem-là est très intéressant, ils patinent un petit peu, mais ils semblent quand même le percer, et on sait que leur ambition, c'est d'essayer de réitérer le coup de Pasqua de Villiers en 1999, c'est-à-dire essayer de passer devant, je dirais, la droite modérée, pour s'imposer comme étant une force alternative, je dirais, au sein de la droite modérée. C'est un pari qui semble d'être sinon totalement réussi, du moins, je dirais, envisageable.
Il y a deux partis qui ont gouverné la France jusqu'à 2017, et oui, même encore un peu aujourd'hui, puisqu'il y a des ministres qui viennent des Républicains et
bien
d'autres
ministres
qui viennent du PS, LR et le PS. Est-ce qu'on peut envisager une résurrection d'un des deux ou des deux lors des prochaines européennes? Je parle de résurrection parce qu'ils ne sont pas vraiment en très bon état.
Non, ils ne sont pas en très bon état. Alors, les sondages, là, nous disent que le PS est vraiment en train de mourir. La seule chose, c'est que, pour ce qui est de LR, il se retrouve dans une stratégie, enfin, je veux dire, dans une position intermédiaire, un écartèlement qui fait que, eh bien, ils ont du mal à émerger. La personnalité de Laurent Wauquiez ne semble pas suffisamment charismatique pour sauver sa famille politique. Et puis surtout, il n'a pas l'intention, semble-t-il, d'être le chef de file pour les élections européennes. Et donc, quand le chef de la famille politique...
Il a peut-être intérêt en voyant les sondages.
Sans doute, mais ça n'empêche que il espère finalement sauver l'unité de son parti en essayant de trouver une tête de liste qui permette, je dirais, d'empêcher l'hémorragie, soit de l'électorat vers les amoureux de la France et le Front National, soit de ses cadres vers LREM. Il est certain qu'aujourd'hui LR se retrouve dans la même position un an et demi après la présidentielle que le PS au moment de la présidentielle. Ils sont écartelés entre les forces politiques plus à droite ou plus à gauche et la force politique centrale. C'est une situation très compliquée. Pour autant, je ne crois pas que la stratégie de Laurent Wauquiez soit mauvaise, parce que, en soi, si vous voulez, c'est-à-dire que s'il n'avait pas son positionnement plutôt droitier, je crois que la situation de LREM serait encore, de LR serait encore pire. Il n'empêche que il n'arrive pas véritablement à incarner un renouveau. Alors attention, il ne faut pas complètement enterrer LR à droite et le PS à gauche, parce que ce sont des partis politiques qui pour l'instant ont, contrairement à
LFI, d'élus locaux.
Exactement, à LREM ou au Front National, ont des élus locaux. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs ce qui les paralyse d'une certaine manière dans leur stratégie, c'est qu'ils veulent sauver leur majorité dans les collectivités territoriales réalisent un grand écart politique qui ne permet pas d'identifier véritablement une stratégie, un discours très clair. Ils ont des élus locaux et donc il ne faut pas les enterrer tout de suite. Puis la dernière force politique qu'on n'a pas évoquée, évidemment, c'est LFI.
Très très court.
C'est très très court. Eh bien, ils sont devant vraiment la grande alternative. Est-ce qu'ils basculent, dans le pro-communautarisme, ou est-ce qu'il bascule dans un populisme, mais qui évidemment les mettrait devant une nécessité de prendre position sur la question de l'immigration, et là c'est très compliqué pour
vaste débat. Merci beaucoup Guillaume Bernard, politologue, qu'on retrouve à 8h40 pour le duel face à Arlette Chabot.